Alors nous sommes de retour à Parole à propos. Je suis toujours en compagnie du pasteur Perron. Alors dans la première partie de cette émission, on a fait un survol vraiment très très sommaire des textes de l'Ancien Testament dans lesquels le Saint-Esprit avait attesté d'avance les souffrances du Christ. Et le Nouveau Testament nous présente ces souffrances-là, non plus seulement comme des événements lointains à venir, mais comme des événements historiques qui se sont accomplis. J'aimerais, avant d'aller dans le Nouveau Testament, lire une prophétie, moi, qui m'a toujours frappé, qu'on retrouve dans le psaume 22. Le psaume 22, Jésus est en croix et il cite une parole de l'Écriture, c'est le psaume 22 qui s'ouvre comme suit. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Hein, lorsque Pierre nous dit que l'Esprit attestait les souffrances de Christ, David est inspiré, il écrit, il annonce d'avance les souffrances de Christ. Mais ce qui est frappant, c'est qu'un peu plus loin, dans le psaume, il parle de la crucifixion, il décrit en détail la mort de Jésus à une époque où la crucifixion n'était pas pratiquée. Il dit « Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Je ne sais pas pour vous, docteur Perron, moi, quand je lis ça, je me dis « Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui a pu inspirer. D'avance cette vérité, cette affirmation-là dans la bouche de David.
C'est au-delà de tout doute, hein. C'est la raison pour laquelle on dit que la Bible, elle est autopistique. Elle se rend témoignage à elle-même, hein, et elle démontre effectivement sa véracité. Avec ces siècles qui les séparaient de l'événement, il décrit avec une précision quasi chirurgicale ce qui allait se produire à la crucifixion.
Alors, comment est-ce qu'on résume les souffrances de Christ dans le Nouveau Testament?
Bon, nous avons commencé par la naissance du monde tout à l'heure, hein, dans Genèse 3:15. Nous commençons dans le Nouveau Testament avec la naissance même du Christ. Bon, on passe par-dessus la naissance extrêmement humble, hein, dans un caravansérail, dans une mangeoire, mais déjà, on voit qu'est-ce qui serait au menu de son parcours terrestre. Parce que d'ores et déjà, Hérode cherche à le faire mourir après avoir reçu le témoignage des mages qui disaient « un roi est né ». Hein. Immédiatement, Hérode se sent menacé et il fait mourir là les enfants en bas de 2 ans, espérant de la sorte, bien sûr, y inclure la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dès que, oui, vous avez quelque chose à ajouter, Pascal, là-dessus?
Non, okay.
Dès qu'il commence sa vie publique, Jean-Baptiste le voit venir, prophétiquement, quelle est la première affirmation? Dans Jean chapitre 1, verset 29 et verset 36, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Est-ce que ça pouvait être plus clair que cela? Pourquoi l'appelle-t-il l'agneau de Dieu? Hein? Ce n'était pas parce que Jésus était frisé ou je ne sais trop quoi. Hein? Il faisait manifestement référence à ce dont nous avons parlé dans la première partie de l'émission, à savoir qu'il était l'agneau qui devait être sacrifié pour le bénéfice du peuple de l'Éternel. Et à 2 reprises, Jean-Baptiste fait la même déclaration, « Voici l'agneau de Dieu ». Nous retrouvons un peu plus loin, en Matthieu 4, nous retrouvons la tentation du Seigneur. La tentation du Seigneur, je pense qu'on peut l'inclure également dans ses souffrances, parce que quelle est la stratégie de l'ennemi ici? C'est d'inviter le Christ à prendre un raccourci. Hein? Pourquoi passer par la croix? Et ça, c'est la tentation de tous les croyants, d'ailleurs. Hein? Pourquoi passer par la croix alors qu'on peut passer outre? Je vais te donner, si tu te prosternes devant moi, si tu te soumets à ma volonté, je vais te donner tous les royaumes du monde. Et dans l'une des tentations. Et le Christ, bien sûr, résiste fermement. Se poursuit donc son pèlerinage terrestre et on se dit l'endroit par excellence où on se retrouve en sécurité, c'est bien chez les siens, mais ça ne semblait pas du tout être le cas du Seigneur Jésus. Si nous faisons une brève excursion, je tourne les pages en vous parlant, en Matthieu chapitre 3, versets 20 à 21, par exemple, nous lisons ce qui suit. Matthieu chapitre 3, 20 et 21, ça n'existe pas, c'est merveilleux. C'est peut-être Marc, je ne sais trop, où Jésus est en train de parler, en train de discourir, et voilà que se présente sa famille, et ils viennent pour le prendre parce qu'ils se disent « il est hors de sens ses parents qui lui disent cela, ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas ses persécuteurs. On continue encore avec l'incompréhension des disciples. En Luc chapitre 9, Jésus est en train de leur parler qu'il devait souffrir et qu'il devait mourir. Quelle est la réaction des disciples? Ils se mettent à discuter entre eux, à savoir qui était le plus grand. Est-ce que c'est pas déconcertant pour le Seigneur, qui est en train de leur ouvrir son cœur sur un des enseignements les plus importants, vraisemblablement, qu'il avait à leur léguer? Alors eux, bon, qui va être premier ministre, qui va occuper le rôle le plus important, qui est le plus grand du groupe?
Alors, c'est un résumé qui s'impose, parce que souvent on va, quand on pense aux souffrances de Christ, on va les limiter à la passion, aux souffrances en croix et tout ce qui entoure directement la croix, en oubliant que tout son cheminement, tout son chemin vers la croix a été un chemin de souffrance. Dès l'incarnation, l'Écriture présente que c'est une humiliation jusque vers la mort, un chemin d'obéissance et de souffrance jusqu'à la mort.
Et vous avez raison de dire que c'est un chemin d'obéissance, parce que tout du long, lorsqu'on lit les évangiles, le récit par excellence de la passion du Christ, nous voyons que Jésus a toujours devant lui comme objectif Jérusalem. Je me dirige vers Jérusalem. Il se dirigeait vers Golgotha.
Alors, le chemin de croix, ça commence dès l'incarnation, finalement.
Voilà. La passion, pathéo, souffrir. Oui, on parle de la passion, comme vous mentionnez, on tend à concentrer bien davantage sur les dernières heures du Christ, mais ça a été tout du long, tout du long. Vous savez, l'abandon des siens, l'incompréhension constante, vivent avec ça au quotidien. On le voit pleurer sur Jérusalem. Jérusalem qui tue les prophètes, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits, mais tu ne l'as pas voulu. Jésus qui dit au sortir du temple, il ne reste, alors que les disciples s'émerveillaient de l'architecture, il ne restera pas pierre sur pierre. On voit Jésus constamment attristé, il pleure sur la mort de Lazare. Ce n'est pas qu'il pleure sur la perte d'un ami parce qu'il allait le ressusciter, mais il pleure à la vue des conséquences dévastatrices du péché. Alors tout du long, c'est souffrance morale, souffrance physique, souffrance intellectuelle.
Et quand on lit les évangiles, on se rend compte à quel point les évangiles accordent une grande place au récit de la passion de Christ et au caractère historique de cet événement-là. Ça nous est pas présenté en termes poétiques ou c'est vraiment des récits, c'est des récits historiques. Ça nous est décrit comme des événements historiques, et c'est ce point-là sur lequel les apôtres insistent et ils se présentent comme des témoins de ces événements-là, comme les premiers témoins. Pierre lui-même, dans son épître, dit, quand il parle aux anciens, il les exhorte et dit « Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ ». Il en fait presque un titre officiel d'avoir été témoin des souffrances. Et l'apôtre Paul aussi, il insiste dans son épître aux Corinthiens sur le caractère historique de la mort de Jésus et de ses souffrances. Mais la raison fondamentale pour laquelle le Nouveau Testament insiste sur l'aspect historique des souffrances du Christ, c'est en raison de l'aspect théologique de sa mort. Il faut que le Christ ait véritablement souffert ce qu'il a souffert pour que l'effet de sa mort soit valable. Si il n'a pas vraiment souffert dans la chair, si ce n'était qu'un fantôme, si ce n'est pas vraiment arrivé, eh bien ce qui devrait en découler n'a pas plus de réalité. Il semble que le sens théologique ou la véracité de l'Évangile est enraciné dans l'événement historique, dans le caractère vrai de la mort du Christ. Et j'aimerais, pour terminer, qu'on s'intéresse à l'angle théologique de la mort de Jésus. On sait qu'il a souffert, sa mort est attestée vraiment avec force par des témoins, mais pourquoi Christ est-il mort? Pourquoi est-ce qu'il a souffert tout ça? Pourquoi est-ce qu'il a enduré tout ce calvaire?
Voilà, effectivement, un procès bidon, hein? Mm-hmm. Une expression de haine sans pareil, la libération d'un criminel à sa place, le mépris, la torture. Mais la culmination, Pascal, à mon avis, c'est dans Matthieu 27, 46, lorsqu'il s'écrie en croix, « Eli, Eli, lama sabachthani, hein? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ça, je pense que c'est vraiment le point central de la Passion. Le Père qui détourne sa face du Fils, qui détourne sa face de Jésus, qui se sépare de Jésus. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu, hein. Mmh. L'enfer, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu, hein. Le Christ a vécu l'enfer à ce moment-là, hein. Il a été séparé de Dieu. Et au pire de ses souffrances, il pense encore aux autres. C'est au pire de ses souffrances qu'on l'entend dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font » et c'est au pire de ses souffrances également qu'il pense à sa mère et qu'il pense à son disciple Jean. Maintenant, pour revenir plus précisément à votre question, effectivement, lorsque le reste de l'Écriture sainte interprète la mort de Jésus, non seulement ce qu'on y trouve là dans le récit immédiat, mais lorsque le reste du Nouveau Testament l'interprète, on voit toujours que les souffrances du Christ ont été des souffrances vicariales, des souffrances substitutives pour le bénéfice des autres. Lorsqu'on revoit le récit de la communion, par exemple, hein, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné », nous dit l'apôtre Paul, etc. Et lorsque Jésus lui-même institue la scène, il va dire ceci, hein, « Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle versé pour vous et pour un grand nombre. » Pas versé pour tous,
non,
versé
ça.
Pour un grand nombre. « Partout, il nous est dit que le Christ est venu mourir pour... » son peuple. Mmh. Il est venu mourir pour les siens. Il est venu donner sa vie pour son épouse. Hein. Nous sommes appelés à aimer nos conjointes comme Christ a aimé son Église et s'est donné lui-même pour elle. Amen. Tout au long, si nous faisons une herméneutique minimalement honnête, hein, on réalise que le Christ est venu mourir pour les siens, racheter ceux que le Père avait d'ores et déjà mis de côté, si vous me passez l'expression maladroite, avait déjà choisi, élu dans l'éternité passée.
Il y a quelques années, vous vous souvenez, il y a eu le film La Passion de Mel Gibson, ça avait fait une controverse parce que ça amenait la question qui a tué Jésus? Est-ce que c'est les Romains qui étaient responsables ou est-ce que c'était les Juifs? Il y avait la crainte que ça allait susciter de l'antisémitisme dans le monde. Et je me souviens d'une entrevue avec le réalisateur Mel Gibson. La journaliste lui demande, alors selon vous, qui a tué Jésus? Et il a répondu, ben on l'a tous tué, on est tous responsables de sa mort parce qu'il est mort pour les péchés du monde. Mais la vraie question, plutôt que qui a tué Jésus, c'est plutôt pour qui Jésus est-il mort?
Voilà.
Mm-hmm. Et vous venez de le dire, Christ est mort non pas pour chaque individu, autrement tout le monde serait sauvé, mais il est mort pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. La Bible nous montre qu'il est mort pour les croyants exclusivement.
Et il est mort pour ceux qui croient. Et pourquoi est-ce que ceux qui croient, croient? Parce que le Christ est mort pour eux.
Amen.
Dans les bénéfices de sa mort, il y avait également le don de la foi et de la repentance. Et là, vous avez hâte de m'interrompre pour me dire que c'est terminé.
Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé tout ceci avec nous. Écoutez, chers auditeurs, la mort du Christ, il est mort, l'Écriture nous dit, pour nos péchés. Nous sommes des êtres responsables devant Dieu, nous avons une responsabilité morale et nous ne pouvons pas expier, enlever, laver nos péchés devant Dieu par nos œuvres, par nos prières, par quoi que ce soit. Il y a une seule chose qui peut les enlever, c'est le sang de Christ, c'est sa mort expiatoire. Et la seule façon d'en bénéficier, c'est de se repentir de nos péchés, de croire en Christ, d'invoquer le nom du Seigneur, de se tourner vers lui. Alors j'espère que ça sera une bonne nouvelle pour vous tous en ce jour, ce vendredi saint, où nous nous rappelons cet évangile glorieux dans lequel Dieu a manifesté son amour et sa justice.
Et j'en profite, Pascal, pour vous souhaiter de joyeuses Pâques. Que la vie du Christ mort, mais vous allez en reparler probablement un peu plus tard, mais aussi ressuscité, puisse se manifester en chacun de nous.
Amen.